Salut à tous les ornithos et bienvenue de nouveau dans votre émission Carrément Rétro, la seule émission de la bande FM qui aborde la culture rétro geek et présentée par votre serviteur Johan Sega. Jingle. La rubrique Le jeu du jour. Aujourd'hui dans Le jeu du jour, un monument du jeu, alias Mario de Nintendo. Mario est un personnage de jeu vidéo, rappelez-vous, qui est devenu la mascotte de Nintendo, facilement reconnaissable à sa moustache, à sa salopette, à ses gants blancs et à sa casquette rouge marquée d'un M inscrit dans un cercle blanc. Né de l'imagination du concepteur de jeu, le génialissime Shigeru Miyamoto, qui est italo-américain, dans les années 80. Ce sera Nintendo of America qui décidera de donner le prénom de Mario à cette nouvelle star du jeu vidéo et qui apparaîtra pour la première fois en 1981 dans le jeu Donkey Kong sous le nom de Jumpman. Mais depuis 1985, c'est la série à succès des Super Mario qui a fait de lui un phénomène mondial et l'un des personnages les plus emblématiques du jeu vidéo. Depuis, Mario a accompagné toutes les consoles de Nintendo. Les jeux de la série Super Mario ont joué un rôle important dans l'évolution du jeu de plateforme, dont il renouvelle régulièrement les codes. Plusieurs épisodes ont marqué durablement le jeu vidéo, notamment le premier opus, Super Mario Bros. NES, sorti en 1985, qui est resté pendant 23 ans le jeu le plus vendu, avec plus de 40 millions de cartouches écoulées, qui sera détrôné par Wii Sport en 2008. Mario apparaîtra pour la première fois en 3D dans le jeu Super Mario 64 sur Nintendo 64, sorti en 1996. Au fil des années, le personnage de Mario est aussi apparu dans d'autres types de jeux, tels que le jeu de course Mario Kart sur Super NES et le jeu de combat Super Smash Bros. Ou encore le jeu de rôle Super Mario RPG et les célèbres Mario et Sonic aux Jeux Olympiques dans les années 2000. La série Mario est donc la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo, avec plus de 195 millions d'exemplaires écoulés. Cependant, d'après les estimations du site VG Charts, l'ensemble des jeux liés à Mario représente au moins 450 millions d'exemplaires vendus. Et certains chiffres n'étant pas connus, ce total est certainement inférieur à la réalité. L'univers de Mario s'est progressivement enrichi au fil des jeux, avec l'apparition de nouveaux personnages, devenus plus ou moins célèbres à leur tour, au point de voler à l'occasion le premier rôle de Mario. Les principaux sont Luigi, son frère, la princesse Peach, sa dulcinée, les Toads, serviteurs de Peach, Yoshi, sa fidèle monture, Bowser, son ennemi juré, et Wario, son grand rival, dont la voix est doublée par Charles Martinet. Mais revenons au départ de Mario. Mister Video est le premier nom donné par son créateur, Shigeru Miyamoto, à Mario. Selon le jeune développeur à l'époque, ce personnage destiné à apparaître dans tous les jeux qu'il réaliserait se devait de posséder une stature propre. Contrairement aux autres jeux de cette époque, Pac-Man, Princess Vader. Mais ce nom est rapidement abandonné pour Jumpman en 1981, comme on le disait tout à l'heure dans le jeu vidéo Donkey Kong. Son nom reflète simplement le principe du jeu, où le but est de gravir des échafaudages pour délivrer Pauline, l'amie du héros, qui se trouve au sommet, captive du gorille Donkey Kong. Pour cela, Jumpman doit éviter tonneaux et boules de feu en sautant. Le jeu se déroule sur un chantier et le personnage contrôlé par le joueur a un métier, il est charpentier. Le personnage de Jumpman est rebaptisé Mario dans Donkey Kong Jr, sorti en arcade en 1982. C'est la seule fois où il endosse le rôle d'antagoniste du personnage contrôlé par le joueur, en l'occurrence le fils de Donkey Kong, dont le but est de délivrer son père captif de Mario. Le retour au premier plan de Mario se fait en 1983 dans Mario Bros, épisode qui voit également l'apparition de son frère Luigi. Tous deux sont maintenant jardiniers pour justifier l'action sous terre et l'abondance de pots de fleurs abritant les ennemis. Dans ce jeu, les deux frères ne peuvent pas sauter sur leurs ennemis, mais doivent les faire trébucher pour ensuite les éjecter hors de l'écran. Le succès est important, mais Miyamoto considère que son personnage n'est qu'un élément se déplaçant, l'important étant de créer un gameplay autour. C'est deux ans plus tard que Mario connaîtra véritablement la notoriété sur la première console de Nintendo massive, la Famicom, dans sa version occidentale appelée la NES. Mario s'est fait une spécialité de sauver les princesses en détresse, et notamment la princesse Peach, souvent enlevée par Bowser ou Bowser Jr., dont il semble amoureux, ce qui est peut-être réciproque. Bien que cette mission soit présente dans de nombreux jeux, il arrive parfois à Mario de sauver Daisy ou encore Pauline, notamment dans Donkey Kong, et dans la série Mario vs Donkey Kong qui a 6 volets. De plus, il n'est pas rare qu'il tente de libérer le royaume champignon, voire d'autres royaumes comme le royaume de Vegesia. Il porte parfois secours à son univers, dans Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2, ou même à l'ensemble de toutes les dimensions dans Super Paper Mario. Il doit aussi, dans Super Paper Mario Bros 2, détruire la machine diabolique du maléfique Wart. Il peut également être l'objet de la quête au lieu d'être en être l'acteur. Mario is Missing sur Super NES, Super Princess Peach sur DS. ou bien devoir affronter son rival Wario, apparu premièrement dans Super Mario Land 2 sur Game Boy au début des années 90. Sur l'apparence de son personnage, Shigeru Miyamoto a bien indiqué que Mario ne doit rien au hasard. Miyamoto a avoué que la casquette lui venait du fait qu'il trouvait compliqué de dessiner des cheveux et que si Mario passait sur un tableau dont le fond est noir, les jeux étant en 2D à l'époque, on ne le verrait plus. Ainsi a-t-il pensé à une casquette rouge. Aussi, la moustache est apparue à cause des limitations techniques de l'époque, en évitant d'avoir à dessiner la bouche, élément trop fin. Pour la salopette, il était essentiel de la dessiner avec deux couleurs différentes pour ne pas confondre des bras avec le corps. Mais il faudra attendre 1988, dans la version américaine et européenne, pour que les choix des couleurs soient fixés au rouge et salopette bleue, et non l'inverse comme dans Donkey Kong en 81 ou la salopette marron en Super Mario Bros. En 85. Nous continuerons de parler de Mario dans une prochaine émission, tellement le sujet est vaste. La pause musicale dans votre émission Carrément Rétro, c'est avec Trevor Something Fade Away. Dans votre émission Carrément Rétro, Trevor Something Fade Away.
Ornithorynque sur internet, c'est sur www.ornithorynque.net.
Moi j'écoute Carrément Rétro Ornithorynque et j'aime ça.
La rétro interview sur le 90.2 FM. Carrément Rétro, l'émission, l'interview du jour. Aujourd'hui, on reçoit Dominique. Dominique comment ?
Dominique Vaugelet.
Dominique Vaugelet. Alors, bah tiens, allez, vas-y. Explique-nous ce que tu fais, Dominique.
Alors, ce que j'ai fait, parce que maintenant, j'ai changé d'activité. Mais pendant plus de 10 ans, j'ai été principalement sound designer et également compositeur pour les jeux vidéo.
Tout simplement. Je sais que tu as travaillé chez Ubisoft et Quantic Dream, enfin, pour eux, tout du moins.
Voilà, j'ai commencé chez Silmarils, donc un studio français qui faisait du jeu d'aventure. Après, j'ai enchaîné chez Infogrames pendant plusieurs années pour finalement aller chez Darkworks, Ubisoft et Quantic Dream.
D'accord. Et quelles sont tes créations? Enfin, peut te retrouver en fait en tant que consommateur, acheteur d'un jeu. Dans quel jeu, connu ou moins connu, on peut retrouver tes créations, Dominique?
Alors, dans le cadre du rétro gaming, un vieux jeu de 98 qui s'appelait Asgan, par Silmarils. Donc j'ai composé l'intégralité des musiques du jeu. En 2000, ils ont sorti un autre jeu d'aventure qui s'appelait Arabian Nights. J'ai également composé les musiques d'Arabian Nights. Et puis après, en tant que concepteur sonore chez Infogrames, alors rien de particulier parce que j'étais dans la phase de pré-production. Donc je faisais les bruitages et les musiques pour les jeux qui étaient en pré-production dans le studio de Lyon avant d'externaliser le reste pour la version finale.
D'accord, donc récemment je sais que tu as participé, alors c'est pas du rétro dans une émission rétro, mais c'est pas grave, allez chers auditeurs, vous me pardonnerez, je sais que tu as participé à Because Human, donne-moi le nom du jeu.
Non, alors celui d'avant c'était Beyond Two Souls.
C'est ça, alors Beyond Two Souls, et dans ce jeu en tant que sound designer, qu'est-ce que tu as fait, toute la totalité des sons?
Alors la manière dont Quantic Dream est organisée, chaque sound designer a un certain nombre de niveaux qui leur en sont attribués, et on doit faire tous les sons de ce niveau-là, donc du coup c'est très intéressant, très constructif, parce qu'on n'est pas cantonné comme certains projets à faire typiquement les sons d'ambiance ou les sons de bruit de pas ou les sons de machin. Là, pour un niveau, on fait tout. Donc, j'ai fait 4 ou 5 niveaux de Beyond Two Souls, l'intégralité des sons du niveau.
D'accord, donc on pourra te retrouver en achetant ce jeu Beyond Two Souls. Aujourd'hui, donc, comme vous pouvez l'entendre, chers auditeurs, derrière, il y a une ambiance, parce qu'on est dans le salon de l'association Carrément Rétro, et Dominique a amené, dis-nous ce que tu as amené là, parce que je vois des écrans, je vois un clavier, je vois un égaliseur ampli, un PC. Allez, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, dis-moi.
Alors j'ai essayé d'amener le matériel minimum pour essayer de faire la démo du sound design, de l'intégration et de la composition musicale. Donc c'est pour ça que j'ai un PC portable avec les outils de composition comme Cubase par exemple ou Reason, qui sont des outils vraiment de musique assistée par ordinateur pour créer des morceaux musicaux. Cubase peut également servir à faire du montage de son quand on a besoin de faire du sound design complexe qui mélange le mixage de plusieurs sons, c'est très pratique. Et puis j'ai un logiciel qui s'appelle Wise aussi, qu'on appelle un middleware audio. C'est un programme qui se connecte entre les banques de sons et le moteur du jeu, et comme ça le moteur du jeu dit je veux un son de Portigrince, et Wise va piocher dans les banques de sons pour sortir le bon son.
Dans ces banques de sons, on est bien d'accord que c'est toi qui les fais?
Alors il y a deux méthodes, soit des banques du commerce, soit des sons enregistrés nous-mêmes, et généralement on mélange les deux, et dans tous les cas les sons du commerce sont toujours transformés, trafiqués, déformés pour ne pas ressembler au son d'origine.
Alors ça c'est intéressant. Tiens, on va prendre l'exemple que tu cites, que nos auditeurs ont entendu, qui est le son de la porte qui grince. Alors moi j'imagine que tu mets un micro par exemple chez toi, que tu as une vieille porte de cave, et tu fais grincer la porte, c'est ça ou pas, dis-moi?
Exactement. Ou alors les studios comme Quantic Dream ont une cabine d'enregistrement avec des micros, des préamplis, etc., et avec plein d'objets hétéroclites, un petit peu comme pour les bruiteurs de cinéma. Et donc des sons sont enregistrés à la demande. Une fois qu'ils sont enregistrés, ils sont traités, ils sont pour avoir le bon niveau, pour avoir une part de souffle, etc. Et après ils sont découpés, ils sont isolés en plusieurs versions et ils sont intégrés dans le jeu.
Oui, donc en fait je me trompe pas, j'ai pas du tout connaissance de, si tu veux, de ce milieu du sound designer. Autant on a pu rencontrer dans le cadre de notre émission des graphistes. Alors le son, c'est un peu le parent pauvre du jeu vidéo, moi je trouve, peut-être moins maintenant parce qu'avec l'avènement des nouvelles consoles bien entendu, mais ça a toujours été un petit peu le parent pauvre. T'en penses quoi toi en tant que professionnel artiste, Dominique?
T'as 100% raison. En fait, ce qui est frustrant avec le son dans le jeu vidéo, comme ça l'est un petit peu avec le son du cinéma, c'est que généralement quand on l'entend, c'est qu'il est pas bon. Un son qui est bon, il est tellement collé à l'image, tellement collé à l'action, que finalement il coule de source et on ne fait pas attention. Et c'est toute la difficulté du son et de la musique de jeu vidéo, c'est que un bon son doit s'entendre et pas s'écouter. Une musique qui est trop présente, parce que par exemple la mélodie même parfois est même trop jolie par exemple, hein, finalement un morceau qu'on aura envie d'écouter sortira le joueur de son expérience de jeu et donc sera pas bonne pour le jeu. Donc une musique typiquement de jeu vidéo devra s'entendre pour installer l'ambiance, mais sans qu'on ait envie de l'écouter.
C'est vraiment vraiment très compliqué effectivement. De là prend toute la note artistique que tu peux amener à cette création. Écoute Dominique, je te remercie de cette rencontre pour notre émission, pour nos auditeurs qui, s'ils ont des questions à poser, peuvent te rejoindre ou t'as un contact quelconque.
Alors j'ai un SoundCloud dont je ne connais pas l'adresse par cœur, mais je donnerai l'adresse à la radio et peut-être que vous pourrez communiquer.
Tout à fait, tu nous donneras l'adresse donc à la radio Ornithorynque, hein, sur la page Facebook Carrément Rétro l'émission, et on mettra dans le bandeau d'annonce de l'émission sur la page Facebook pour pouvoir te rejoindre. Je te remercie Dominique en tout cas de cette interview.
Bah, avec plaisir.
Et à bientôt.
Pour toutes vos questions, suggestions et idées, n'hésitez pas à me contacter sur johan@ornithorynque.net. Je répète, johan@ornithorynque.net. Salut les rétros, j'espère que vous avez passé un excellent rétro moment en ma compagnie. Je vous dis bye bye et à la prochaine.